Économie et société. Il existe de nombreuses interdépendances et liens entre économie et société, car les différents processus économiques peuvent déterminer la vie de la société sous plusieurs aspects. Chômage, mobilité, pouvoir d'achat, niveau de vie, et inversement. Les changements et mutations qui se déroulent dans la société peuvent rétroagir sur l'économie. Toute économie s'appuie sur la population active, qui regroupe la population active occupée, les personnes qui travaillent, appelées aussi les actifs occupés, et les chômeurs, les personnes qui sont en âge de travailler mais n'ont pas d'emploi ou sont à la recherche d'un emploi. Souvent victimes des inégalités sociales, les chômeurs de longue durée, eux, sont souvent issus de milieux défavorisés et ne bénéficient pas des avantages que l'égalité des chances devrait leur assurer. Les causes du chômage sont multiples et varient par pays. Dans les économies développées, comme celle de la France par exemple, il s'agit essentiellement d'un chômage structurel, imputable à plusieurs facteurs. L'un d'eux est le manque de flexibilité des chefs d'entreprise, qui souvent hésitent à créer des emplois car, si par la suite ils sont obligés d'en supprimer, cela représente pour eux une procédure compliquée et coûteuse. Les Français sont critiques et accusent le gouvernement d'être incapable de résorber le chômage, c'est-à-dire de le faire passer sous la barre des 7%. Pour les entreprises, qui assurent l'immense majorité des emplois, il s'agit d'obtenir des gains de productivité. Une entreprise gagne en productivité quand elle produit plus sans augmenter les coûts de production, ce qui lui permet aussi d'être compétitive, donc de résister à la concurrence. Les Français pointent aussi du doigt les entreprises qui, pour y arriver, délocalisent leur activité à l'étranger, avant tout dans des pays où le coût de la main-d'œuvre est bas. La plupart des directeurs d'entreprise veulent tout simplement économiser de l'argent en comprimant ainsi leurs dépenses salariales. Beaucoup de détracteurs s'en prennent à l'automatisation de la production et à l'utilisation des robots. Pourtant, le progrès technique n'est en cause que pour 3% des suppressions d'emplois. En plus, il y a la formation insuffisante qui est aussi génératrice de chômage par le fait que la main-d'œuvre qui en est issue n'est pas suffisamment adaptée à la satisfaction des besoins du marché du travail. En Hongrie, la situation est différente, dans la mesure où le chômage, c'est-à-dire le sous-emploi, a trois causes principales: le nombre insuffisant des emplois, la faible mobilité de la main-d'œuvre et la formation professionnelle qui ne suit pas toujours l'évolution des besoins du marché du travail. En France, le gouvernement propose plusieurs remèdes au chômage, dont les plus importants sont le plan social, la reconversion, le reclassement, le replacement externe et le recyclage. Le plan social est destiné à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre, à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement pour raison économique ne peut être évité. La reconversion peut être l'affectation ou l'adaptation d'une personne à un nouvel emploi. Le reclassement est l'affectation d'emploi à un autre emploi du même type à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Le recyclage est une formation professionnelle complémentaire qui a pour but de faciliter l'adaptation des personnes actives aux évolutions de leur secteur d'activité. Le pouvoir d'achat, lui, qui détermine le niveau de vie, correspond à ce que les ménages peuvent acheter et consommer avec leurs revenus et dépend du revenu et du coût de la vie. Pour le calculer, il est donc nécessaire de mesurer l'évolution des revenus et des prix. La mesure des revenus est complexe. Les ménages disposent d'un ou deux salaires, de revenus sociaux et de revenus de l'épargne. À cela, il faut soustraire les impôts et les taxes. La mesure des prix est donnée par l'indice des prix à la consommation, ou IPC. Il est calculé en France par l'INSEE, Institut National des Statistiques et des Études Économiques. Un autre facteur susceptible d'influencer dans une certaine mesure le pouvoir d'achat des ménages, ce sont les prestations sociales ou avantages sociaux. Il s'agit là de différentes formes d'aide censées alléger les charges pesant sur les familles. En effet, beaucoup de familles vivent dans des conditions très modestes car le chef de famille est payé au SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Les personnes qui n'ont aucune ressource et vivent au-dessus du seuil de pauvreté touchent le RSA, revenu de solidarité active. L'État verse, sans condition de ressources, différentes prestations aux familles en fonction du nombre d'enfants et des personnes à charge. C'est le cas par exemple des allocations familiales. En vue de remédier à la pauvreté, de nombreuses solutions ont été proposées au fil des ans, dont l'une est le revenu universel. En France, l'idée de l'instauration d'un revenu universel a été soulevée peu avant les présidentielles de 2017, appelés aussi revenus de base, allocation universelle, revenu d'existence, revenu citoyen, etc. Le revenu universel aurait pour effet, selon ses défenseurs, d'éliminer la grande pauvreté en versant aux citoyens de quoi subvenir à leurs besoins vitaux, logement, santé, alimentation. Chaque individu aurait la possibilité de travailler ou non et pourrait occuper son temps comme il l'entend, en se consacrant à une ONG, une association, à une activité culturelle ou encore à sa famille. Les partisans du revenu universel défendent des visions différentes. Pour les libéraux, l'objectif du revenu universel est de rationaliser le système d'aide sociale en remplaçant l'ensemble des prestations sociales existantes. Dans cette version, le revenu de base doit rester faible. Couplé avec une suppression du salaire minimum et des prestations sociales, il est destiné à éliminer la grande misère, mais aussi à flexibiliser le marché du travail et à réformer un État-providence jugé inefficace. À la fin de sa carrière, toute personne active peut partir en retraite, autrement dit, prendre sa retraite. Le système de retraite français, tout comme le système hongrois, repose sur le principe de la répartition. Les actifs ayant un emploi versent des cotisations à une caisse de retraite qui les utilise immédiatement pour payer les pensions des retraités actuels. En Hongrie, les actifs cotisent en fonction de leur choix, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou auprès de caisses privées. L'équilibre financier de la Caisse nationale d'assurance vieillesse est fragile, car il dépend du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités. Or, depuis plusieurs années, le nombre de retraités augmente plus vite que le nombre de cotisants, ce qui fait que dans 20 ou 30 ans, le financement des pensions de retraite posera de sérieux problèmes.